bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
C'est la bande originale, salut et bienvenue avec Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin. Albert.
Bonjour.
Pierre Moniz. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure. Et notre invité Didier Deschamps. Ravi de vous accueillir à nouveau. Vous êtes le parrain de cette émission, Didier, quand même.
Oui.
C'est-à-dire que nous, on n'a pas arrêté.
Ça nous rajeunit pas. Hein.
Non. C'était il y a 5 ans. On n'a pas.
Vous faites pas toujours des paris gagnants. Hein.
On n'a pas arrêté de dire. Chaque fois qu'il se passe un truc.
J'ai choisi le bon cheval.
On disait, c'est notre parrain. On est ravis. On est fiers de vous accueillir. Didier, double champion du monde, évidemment, mais surtout, et là, c'est une avalanche de titres depuis la fin de l'année 2018 et début 2019, c'est-à-dire des titres de meilleur entraîneur de l'année. Le premier que vous ayez reçu, c'est quoi? C'était la FIFA? Ou il y en a eu un avant la FIFA?
Non, c'est The Best, oui, en mois de septembre.
Tout simplement, The Best.
C'est eux qui ont... C'est leur émission, c'est leur soirée. Non, c'était... Ouais.
Mais c'est un titre qui existe depuis longtemps? Ou c'est pour concurrencer le Ballon d'Or qu'ils ont fait ça?
Ils ont été associés, après ils se sont séparés pour être plus ou moins en concurrence.
Indépendants.
C'est ce que c'est les médias de nos jours.
Ouais, mais FIFA,
il y a une
forte
concurrence.
C'est pas un média la FIFA, c'est une fédération.
Il y a des médias, hein, ils ont les droits
télé,
ouais, tout ce qui est les grandes compétitions, la Coupe du Monde, c'est eux qui gèrent, hein, comme les partenaires et autres.
On va en parler avec Didier Deschamps et puis on va parler aussi de l'opération des pièces jaunes, puisque vous êtes le parrain de cette nouvelle édition. Mais d'abord, des questions concernant Didier Deschamps. On a l'impression de bien le connaître, surtout certains Belges autour de cette table qui prétendent aimer le football. Question à 13 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume, ça va?
Non, pas du tout, je me sens pas concerné du tout.
À 13 ans, dans quelle discipline Didier Deschamps est-il champion
rugby
de France scolaire? Non.
Kung-fu?
Non.
Athlétisme?
La pétanque?
Athlétisme,
c'est large.
Saut en 400 mètres, longueur, 400 mètres. Course
non.
Et...
Saut en longueur.
C'est un truc défensif, j'imagine.
Oh, ça colle.
Lancer de disque.
Javelot.
Je l'avais en face.
Non. C'est de l'athlé,
oui, mais quelle discipline?
Le marathon.
Je sais pas. Le 10 000.
Allez, non, je vais accepter parce que c'est la distance qui compte, c'est pas le marathon.
Le 10 000.
Le 1000.
Ah ouais.
1000 mètres. Champion de France en 1000 mètres.
C'est un des trucs les plus difficiles en plus. C'est un des trucs les plus difficiles, non, comme distance.
Sois sympa comme ça.
Ouais, il doit avoir pire. Hein. Et ce qu'ils font le marathon, c'est plus long. Moi, ça me convenait bien. C'est deux tours et demi de piste.
Ouais. Mais vous étiez quoi? Vous étiez dans l'endurance? Vous étiez dans le cardio? C'est-à-dire physiquement à 13 ans?
J'avais déjà ça.
Vous étiez
ça,
en quelle forme?
En très grande forme.
C'est vrai?
Oui, c'est...
Plus que n'importe quel minot de 13 ans, vous voulez dire?
Un peu plus, apparemment, puisque
champion
j'ai fait de meilleurs temps que les autres.
L'athlétisme, c'était parce que c'était scolaire, parce que vos parents vous y avaient inscrit ou...
Non, le mercredi à l'école, l'UNSS, je ne sais pas si ça existe toujours.
Ça s'appelle encore comme ça,
j'ai fait basket, j'ai fait handball, toutes les disciplines, j'aimais tous les sports.
Pétanque?
Non, ça c'est après quoi.
Mais il est encore en progression, il a encore une marge de progression. Qu'est-ce que la règle des 30, entre guillemets, que Bernard Tapie conseille à Didier Deschamps avant toute interview avec les journalistes?
Le nombre de Ricard à boire.
30, le nombre de secondes avant de répondre, de donner...
Exactement.
Ouais. Une pause de 30 secondes?
Elle est partielle la réponse.
Ouais, elle est partielle.
C'est la règle des 30, 3 fois 30.
Alors vas-y, c'est quoi?
30 premières secondes,
ouais.
30 premiers mots. 30 cm du visage.
Il faut être à 30, c'est pas loin, 30 cm du visage.
30 cm du visage.
Ah d'accord, 30 cm du visage, voilà. De son propre visage.
Et si vous êtes bien dans deux des trois, ben vous êtes meilleur que celui qui est en face. C'est là où vous arrivez à...
Qu'est-ce que c'est que ce coaching de coach?
C'est lui qui disait ça, quand il était dans les débats en tête à tête, voilà.
C'est pas bête de dire 30. C'est pas bête de dire 30 secondes, c'est long hein, 30 secondes avant de répondre à une question, c'est super.
C'est la
long.
Moitié d'une de tes questions en fait. Bon, c'est ça le timing.
C'est moche.
C'est moche, mais c'est
tellement vrai.
Merci Didier, merci.
C'est moche parce que c'est vrai. Bande de salauds.
C'est nous.
Comment Didier fait passer ces longues séances de gainage?
Il écoute de la musique, Ils discutent.
C'est quoi le gainage?
C'est un renforcement musculaire.
Il reste 30 minutes.
Le gainage,
je connais pas.
Alors, le principe du gainage, tu t'allonges à plat ventre, puis tu te tiens sur tes coudes et tu fais une espèce de planche. Oula. Comme ça. Voilà.
C'est terrible.
Et là, tu tiens et vous tenez combien de temps, Didier Deschamps?
Une petite heure.
Moi, j'étais un peu 30 plus secondes.
Ah ouais, putain.
J'étais jusqu'à 1h10, 1h15.
Mais vous étiez endormi?
Une heure.
Il était sanglé en fait.
Ouais, mais bon, c'est des paliers après, mais.
Une heure. Non, mais il faut savoir, Guillermo, tu l'as déjà essayé ou pas?
Ouais, c'est dur. Moi, parce que quelques minutes, quoi.
Tenir que quelques minutes, c'est super.
Quelques
difficile.
Minutes, sans S.
Non, mais c'est vrai, c'est super difficile.
Quelques secondes, il voulait dire.
On commence comme ça, ok.
Pour ne pas. Il sait qui tu es, je pense. Pour ne pas.
Mais Samuel Umtiti est très fort en gainage. Ça lui permet de sauter plus haut que les défenseurs belges.
Mais c'est un peu...
J'ai des objets.
Et même face à quelqu'un qui était beaucoup plus grand que
plus grand, ouais.
Il rendait au moins. En plus, 10 centimètres.
Parce que le gainage des abdominaux, non, mais pour comprendre ce à quoi ça sert, c'est vrai, au foot. Parce qu'on voit Ronaldo qui expose.
Qui reste en l'air.
Ses abdos d'une manière un peu prétentieuse. On se dit, OK, il fait le show, il est, pardon?
1000 par jour.
1000 quoi? Abdominaux.
Ouais, il fait du crunch, ouais.
Ça permet de rester en l'air. J'ai jamais compris.
Mais ça stabilise les lombaires et forcément ça renforce la chaîne abdominale. Donc ça va pas vous faire sauter plus haut, mais ça permet
de rester,
et d'être stable.
D'accord. Et alors donc vous écoutez de la musique pendant ce temps-là.
Ouais. Quelle musique? Non.
Non, mais vous écoutez ou vous regardez la musique? Ce sont des
clips? Non, j'écoute.
Vous écoutez?
Et puis je lui parle. Au Père Noël. Je m'évade, je parle. Il y a du monde dans ma tête, donc j'ai du temps.
Oui, il paraît qu'il y a du monde dans ma tête. On va en parler tout à l'heure. Enfin, pour. J'ai presque envie de dire par. Je sais pas si c'est par provocation ou autodérision. Lors de sa dernière interview, récente interview au Parisien, vous avez fait la une du Parisien en décembre dernier, Didier Deschamps a accepté de signer un t-shirt sur lequel il était marqué quelque chose. Mais quoi de particulier? En autodérision. Il a signé un t-shirt et sur ce t-shirt, il y avait un truc.
Un animal?
Ouais. Non, c'est trop facile.
Un animal. Ils vont pas trouver. Un animal. Ouais. Domestique.
Un chat, un chien?
Un lapin?
Ça peut être.
Non, mais trouver la vanne. Il a signé un t-shirt qui était.
Un rat des champs.
Qui est une vanne.
Didier, le chien, Didier.
Non.
On va le faire. On va faire le pire. Plus ça va avancer, plus ça va être mauvais. Donc, rat des champs. C'est quoi?
Le chien.
Quoi?
Le chien.
Non. Il signe un t-shirt sur lequel il y a un animal et c'est une vanne que l'on a faite à Didier Deschamps pendant tout.
Il y a eu des photos d'ailleurs de prise. Elle était énorme. J'ai dit, elle était énorme.
Ne dis rien! Oh, ils trouvent pas, c'est incroyable, c'est pas dur. C'est vulgaire, de l'argot. C'est vulgaire.
Pour dire de quelqu'un, non, je vais en dire trop tard.
Non.
La choune,
la chatte.
La chatte.
Maintenant, je refuse.
Non.
On parlait d'un animal.
C'était une chatte.
Non, mais non.
Adorable.
Une chatte, puisque en argot, ça veut dire la chance, entre guillemets. Oui. Et donc, on vous a présenté un t-shirt avec.
Ils ont osé faire des t-shirts avec.
La chatte à des champs.
Voilà.
C'est ça?
Ouais.
Et vous l'avez signé.
Mais il y en a un qui avait fait un montage au moment du tirage. C'est mon fils que tu connais qui m'a montré ça. Mais elle était énorme, elle était comme ça.
Ils
avaient réussi à la mettre dans mes bras. Voilà.
Et comment vous. Non, vous le signez. Ça vous fait marrer, ça vous énerve. Qu'est-ce qui se passe?
Non, pas du tout. Non. Mais sincèrement, en plus, cet animal, je l'ai trouvé. Tu le sais, je te l'ai dit, au camp de base, la première fois que j'y suis allé après le tirage, j'arrive, elle m'attendait, elle était là.
La rouquine.
Ouais.
Exactement. Il faut expliquer une chose à nos auditeurs. Ouais. Il y avait un chat qui se trouvait être une femelle, donc une chatte, dans ce fameux camp de base, camp de retranchement de l'équipe de France. Ce chat qui croisait donc tout le staff, tous les joueurs, tout ce qu'il pouvait y avoir autour, le personnel de l'hôtel, la seule personne à laquelle ce chat, qui n'était pas domestiqué, qui appartenait à personne, qui était un chat sauvage à l'hôtel, la seule personne contre laquelle il venait se frotter, c'était vous. Donc de là toutes les vannes possibles et imaginables en disant elle est là, la fameuse chatte à des champs. Mais au-delà de ça, la chance que l'on vous prête, la chance que l'on vous prête. Ouais, bah oui, bah on n'arrête pas de dire, il a de la chance, le tirage au sort. Je me souviens même à ce micro quand nous avions fait l'émission avec Vicente Elizarazu sur son livre et que Vincent Duluc était venu. Vincent Duluc avait dit, de toute façon, avec la chance qu'il a, tout va sourire à Didier Deschamps. C'est-à-dire que certaines personnes, dont cet éditorialiste de l'équipe, vous prête une chance indécente.
Ben, il vaut mieux en avoir dans la vie, mais bon, après, ça fait pas...
Aucun talent que de la chance.
C'est ça.
Ça fait pas...
C'est pas ce qu'il voulait dire non plus.
Si, non, mais c'est un peu le résumé de dire, de toute façon, il a de la chance. Il a de la chance au tirage au sort, il a de la chance dans les matchs, il a de la chance. Ça vous agace, honnêtement?
Je préfère en avoir. Après, je le prends pas au premier degré non plus. Ça fait partie dans le sport, à un moment. Ouais. Ça bascule d'un côté ou de l'autre. Ça a plutôt basculé du bon côté à chaque fois pour moi quand j'étais concerné. Ouais. Mais ça doit pas occulter tout le travail qui est fait avec mon staff en amont. Voilà, au niveau. Ça peut arriver une fois. Par hasard, mais quand ça se répète plusieurs fois, c'est que...
Ce qui est marrant, c'est que ceux qui parlent de chance oublient, par exemple, que Gignac tire sur le poteau à la finale de l'Euro.
J'ai pas tout gagné, j'ai gagné beaucoup de choses. Mais
avant la dernière minute, la dernière seconde, si c'est poteau rentrant...
C'est pas la même chose, je te le confirme.
C'est pas la même histoire. Là, c'était poteau sortant.
J'ai perdu des finales aussi, Ligue des Champions, j'en ai gagné, mais j'en ai perdu aussi. Mais c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Avec la Juve, j'en ai perdu deux. Avec Valence, j'en ai perdu une. Donc, voilà.
Pourquoi on a invité Didier Deschamps, il perd plein de trucs.
C'est vrai.
C'est vrai, ça.
C'est vrai.
Et alors, justement, donc, pour en revenir à ces titres, vous venez d'être élu entraîneur de l'année par France Football. Vous avez été élu meilleur entraîneur du monde par la FIFA. C'était en septembre dernier. Vous avez reçu un prix avec tout le staff, toute l'équipe qui vous entoure, Guy Stéphane en tête. Le grand prix du rayonnement français, c'est remis par Jean-Yves Le Drian, c'est-à-dire l'image que vous donnez de la France vis-à-vis du monde entier.
Ouais.
Voilà, exactement. Tous ces prix, toute cette gloire vient simplement du fait d'avoir gagné la Coupe du Monde, à votre avis? C'est uniquement ça?
Ah, je pense pas que c'est pour ce que je suis, mais par rapport à ce que
par
j'ai
rapport
fait.
Au résultat.
Oui, au titre mondial, bien évidemment.
C'est pour ça que quand ce prix est partagé avec le staff, ça vous paraît plus normal?
Je le partage toujours. Et avec le staff.
C'est vrai que même pour la FIFA, vous aviez dit je le partage aussi avec l'équipe. Ouais.
Ah, et avec les joueurs, parce que je suis rien sans les joueurs. Ce sont eux les acteurs. J'ai été acteur moi aussi, il y a 20 ans. Et je sais très bien que c'est eux sur le terrain. Après, je suis avec eux, le staff est avec eux aussi. On les met dans les meilleures dispositions. Quand t'es joueur, c'est ta victoire. Évidemment, c'est la victoire de tout le monde. Mais t'es acteur. Le rôle de l'entraîneur, du sélectionneur, il est important. Mais après, c'est les joueurs, c'est leur première
qu'est-ce
victoire.
Qu'est-ce qui prouve que cette même équipe n'aurait pas aussi gagné avec un autre entraîneur? Qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la valeur ajoutée?
Ça aurait pu être possible. On le sait pas.
Non mais comment
ce que je sais, c'est que j'étais là. Voilà.
Ouais.
C'était moi. J'étais avec eux. Mais un autre aurait pu la gagner.
Non mais comment mesurer l'importance d'un coach dans une équipe? Non mais je parle, mais pas que de vous.
La constitution d'équipe déjà.
On la mesure surtout quand ça gagne pas. Parce que là c'est 95% la faute du coach.
Ouais,
c'est
vrai,
comme ça. Le football est comme ça. C'est peut-être injuste, mais je le sais depuis le départ. Quand il y a une victoire, c'est inversé. Mais quand il y a une défaite, la responsabilité, elle est quasi totale sur l'entraîneur ou le sélectionneur.
Bah, c'est pareil en radio. Hein. Si l'émission marche, on dit que c'est l'équipe. Si l'émission marche pas, on dit que c'est l'animateur.
Ouais. Tu es bien placé pour le savoir.
Je peux dire, j'en ai enterré des mecs comme toi.
T'en as vu passer. Donc, ce titre de meilleur entraîneur, vous l'avez régulièrement, systématiquement, j'ai envie de dire, chaque fois qu'il y a des nominations, c'est une pression supplémentaire qui vient sur vos épaules aussi?
Non. Pression, pourquoi? J'ai jamais de pression, sincèrement.
Quand même.
Non.
Bah non, on peut pas aller une Coupe du Monde en disant j'ai pas la pression. Non.
Adrénaline. La pression, c'est négatif. La pression, la
pression, c'est de dire je suis viré si ça marche pas.
Je me pose même pas la question. Je sais que ça peut arriver, mais je me soucie pas de mon lendemain. J'ai cette grande liberté là, de par la première vie que j'ai eue en tant que joueur, qui me laisse ce privilège. Je me soucie pas du lendemain, parce que voilà, j'ai cette tranquillité, cette sérénité. Non, c'est plus une excitation, une adrénaline, l'attente. Parce qu'il y a tout le peuple français, tous les supporters, les médias, tout ce qu'on veut. Ouais. Mais c'est des ondes positives. La pression, quand t'es obligé, tu sens, oui, obligé de faire. Non, tu fais tout pour y arriver. Tu te donnes tous les moyens pour y arriver. T'y arrives pas. Ça peut arriver de ne pas atteindre les objectifs. C'est le haut niveau. Il faut l'accepter. Des fois, ça a du mal un peu à passer dans la gorge, comme à la finale de l'Euro avec ce.
Mais qui a aidé la défaite de l'Euro a aidé à gagner la Coupe du Monde ou pas?
Oui. Ouais.
C'est pourquoi?
Mais déjà pour les joueurs, les 8 qui étaient là, comment ils ont préparé cette finale de l'Euro émotionnellement. Quand c'est une première, une finale, c'est y arriver, c'est une chose, mais après la gestion, les 4-5 jours avant, avec l'environnement, tous les soucis qui peuvent, ou les problématiques qui peuvent y être rajoutées, et puis quand on est sur le terrain, on a toujours tendance, et j'ai connu ça aussi au tout début, on se fait le match dans la tête avant de l'avoir fait. On arrive et puis on a perdu de l'énergie.
Ça a été le problème contre le Portugal, c'est-à-dire qu'on s'est vu trop beau.
Non, c'est pas trop beau. On était logiquement favori, c'était en France.
Vous aviez battu
Ronaldo,
l'Allemagne.
Ronaldo, la chance à Dédé. Voilà, Ronaldo qui sort blessé. Ah, encore, c'est comme si c'était moi qui l'avais.
C'est ce qu'on dit. Hein.
Ouais.
Il y a même certains spécialistes ont dit que si Ronaldo était resté pendant le match et n'était pas sorti, on aurait pu gagner parce que le jeu d'équipe aurait été différent.
C'était différent, oui. Ouais. Ça a été une force. Enfin, le talent individuel, ils l'ont perdu, mais collectivement, ils se sont remontés,
ouais, c'est ça.
Retroussé les manches pour être compensé l'absence de Ronaldo. Mais même pour moi, pour revenir à la gestion de la finale, c'est pareil. La finale de l'Euro, j'avais pris une option un peu plus sur le côté émotionnel, avec, sans rentrer dans les détails, mais des témoignages pour les joueurs de la famille, des proches, des enfants, des femmes, des parents. Et là, j'ai complètement...
Oubliez ça.
Ouais.
C'est-à-dire quoi, vous aviez
normalisé.
Ouais.
Voilà.
C'était... Non, mais on peut le raconter quand même, puisque ça se sait. Ouais. Il y avait eu comme des clips, des vidéos, des messages faits par les familles, avec
pour sensibiliser. On l'avait fait. L'avait fait en 98 aussi, non pas que j'ai voulu faire un copier-coller. Voilà, et puis finalement, d'être trop dans l'émotion déjà qu'ils y sont, je pense que c'est pas été un bon.
C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui s'adresse à son papa, joueur, en disant Vas-y, papa, je sais que tu vas gagner pour
d'accord.
nous.
Et c'est son enfant
et... Non, évidemment pas. C'est le joueur de foot, c'est jamais eux. Hein.
Non. C'est pas beau. des animateurs non plus.
Et donc, c'est vrai qu'un papa. Voit un message de son fils qui lui dit t'es le plus beau, t'es le plus fort, tu vas gagner. Il pleure, il est ému et normalement il est transcendé sur le terrain. Ouais. Et c'est peut-être cette corde sensible qui était trop sensible.
Ouais. Et puis même moi, à titre personnel, voilà, on est obligé quand on est en finale de prévoir ce qui se passe après. Et surtout que si ça se passe bien. Et toutes les festivités, tout ça avant l'Euro. Mais je voulais même pas en entendre parler parce que j'ai été marqué par une période négative où je me suis pas qualifié pour une Coupe du Monde en 94 où on s'est vu qualifié avant d'y être aux États-Unis, quoi. Et le côté
donc c'est l'expérience,
festif.
En fait, ouais.
Et puis mais après il faut adapter. Et là l'Euro, ils ont voulu faire pareil avec les différents services de la fédération. J'ai dit non, allez, je peux vous parler, je veux vous parler. Dites-moi ce qu'il y a prévu, ce que on doit faire, donc voilà, ça m'a servi à moi aussi.
Pour en revenir à votre talent d'entraîneur et de sélectionneur, vous avez quand même, enfin j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, ce sentiment, Didier Deschamps, qu'on parle plus de vous et de votre travail pour cette victoire en 2018 que l'on avait parlé du travail et d'Aimé Jacquet en 98. En 98, on avait beaucoup encensé les joueurs et les porté au nu avec Zidane, avec Djorkaeff, avec vous, avec Barthez, avec Laurent Blanc, enfin bon, on ne va pas reciter tous les joueurs. Oui, non mais voilà.
Tu y es presque, vas-y.
On était 22.
Oui, mais sauf qu'il y a des images qui avaient marqué, notamment je pense à Thuram, c'est vrai, avec ses deux buts qu'il marque contre la Croatie, qui avait été repris dans une publicité, mais où on se dit, et c'était l'anecdote, il n'a jamais marqué de but à l'entraînement, il en met deux en Coupe du Monde, et on a oublié les difficultés avec lesquelles l'équipe de France 98 a gagné la Coupe du Monde, et les pénaux, et les buts en or, et on a quand même échappé à la cour martiale plusieurs fois, et les poteaux contre l'Italie, enfin c'était pas simple en 98.
Oui, ça n'a pas été simple en 2018 aussi.
Mais j'ai l'impression que ça a été plus efficace en 2018, que cette équipe a été plus efficace. Et que...
On a été très efficace.
En nombre de buts déjà.
Une efficacité chirurgicale. C'est vrai que malgré tout ce qu'on peut dire après dans ceux qui analysent, et nos amis belges ont beaucoup analysé aussi. Non, mais il n'y a rien de mal. On finit quand même avec 14 buts marqués, dont 11 dans la phase d'élimination directe, et 4 en finale, et c'est pas arrivé, 4 buts en finale depuis 48 ans.
Et en 98, l'équipe de France n'avait pas marqué 14 buts?
Non. Non, mais on avait été champion du monde aussi.
Voilà, et on n'a pas... Enfin, je ne crois pas qu'Aimé Jacquet ait reçu autant de prix de meilleur entraîneur...
Il y avait moins de médias.
De l'année...
Il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Il n'y avait pas autant de prix, c'est ça?
Oui, bien évidemment. Mais il est... Je pense qu'il a, il a la, autant, si ce n'est plus, la reconnaissance. Voire peut-être un peu plus, parce que c'est la première victoire, ça restera toujours.
Bien sûr.
Et puis parce que c'était en France.
Et puis c'est un rapport à la notoriété
aussi.
Oui, c'est
ça, vous étiez déjà hyper connu.
Vous étiez déjà très connu, Didier Deschamps, et à l'époque de 98, les joueurs aussi étaient très connus, et Aimé Jacquet était peut-être un peu moins.
On était connus, oui, mais on a basculé quand même aussi. Il y a une bascule après cette victoire. Que... Le footballeur a basculé dans le people
dans
aussi.
Le
il a intéressé les sponsors. Voilà, avant, on était dans une affaire sportive, et on était que des sportifs. Là, bon, certains ont fait ce qu'il fallait aussi pour basculer dans le people après notre victoire en 98.
Et puis il y en a qui mangent des steaks en or aussi, donc ça va pas aider. Hein. Tout ça, ça va pas aider. Didier Deschamps est notre invité. On va parler évidemment de cette opération des pièces jaunes, puisque votre notoriété footballistique, vous la mettez au service d'œuvres caritatives. Quel sera votre rôle d'ailleurs de parrain pour cette année du pièce jaune?
Je vais le jouer à fond. Je vais aller tout à l'heure à l'hôpital Necker avec les enfants. Et puis après, le fameux train des pièces jaunes va reprendre son chemin. Donc je serai le 19 janvier à Nice. Ils partent de Nice. Voilà, je les accompagnerai où ils auront besoin de moi, bien évidemment. Je serai là pour... soutenir cette cause.
On vous souhaite évidemment une très très bonne année 2019,
c'est
parce
gentil.
qu'on a le droit, on a la possibilité encore de faire jusqu'au 31 cette année.
C'est
étant
toujours que ce soit meilleur qu'en 2018.
C'est ce que j'allais dire.
Le meilleur est toujours à venir.
Ouais, bah je vous le
souhaite. C'est Marcel Desailly qui dit.
C'est Marcel.
Si c'est Marcel qui le dit.
Ok, on arrête l'émission.
C'est bien.
Année de sélection pour l'Euro. Ça c'est de la mission.
Oui, il n'y a pas de compétition, mais on joue la qualification sur les 5 rendez-vous qu'on a.
22 mars, Moldavie, 25 mars contre l'Islande au Stade de France. Et ensuite l'Albanie, c'est ça?
Albanie, Andorre au mois de juin, après match aller-retour. On a septembre, octobre, jusqu'en novembre. On a 10 matchs, 5 fois 2 matchs.
Maréchal Ganache, ça va être une belle année pour Didier Deschamps.
Ah, bien sûr, ça va être une belle année, mon cher Nagui, pour Didier. Mais comme le père Albert hier, je tiens à mon tour à vous féliciter chaleureusement pour les bonnes résolutions que vous avez prises, Nagui, concernant les personnalités invitées dans cette émission.
C'est-à-dire?
Ah, tout d'abord, fini le copinage bas de gamme, l'entre-soi de seconde zone, les renvois d'ascenseurs médiocres, si courant dans le show business. Désormais, et je l'ai noté avec satisfaction, vous n'invitez plus des copains dont la superficialité n'a d'égal que le narcissisme éhonté. Désormais, vous conviez de vrais amis. Non seulement des amis authentiques et de longue date, comme Deschamps Didier, mais en plus des amis qui en ont dans le froc, ou plutôt dans le flottant, comme Deschamps Didier. Et qui l'ont prouvé sur le terrain, en poursuivant les combats héroïques de leurs aînés, notamment, comme vous l'avez fait le 16 octobre dernier, Didier, en battant les Boches. Les Boches grâce à deux boulets de canon d'un de vos gars, Griezmann Antoine, que je salue. Oh. Si vous saviez comme ce match m'a fait du bien. Quelle revanche quand je repense à ce que tous les Fridolins m'ont fait subir. C'était le 9 janvier. Taisez-vous ! Respectez ma différence. C'était le 9 janvier 1943. À la Châtre, où j'étais en garnison. Le chef de la commandanture, le cruel major Schumacher, pour réchauffer ses hommes, car cet hiver-là, on avait froid à la Châtre, pas la Châtre à Deschamps, le major Schumacher décida d'organiser un match amical de football France-Allemagne, France-Reich. J'avais été invité à suivre ce match depuis la tribune d'honneur, d'où je ne ménageais pas mes encouragements à mes hommes. Mais après m'être levé pour crier « Allez, les bleus !» tout en me retenant de hurler « Aux chiottes, les cheleux !» en me rasseyant, Je sentis soudain une douleur atroce me déchirer le fondement. Par mégarde, je venais de m'empaler sur le casque à pointe du major Schumacher. Les effets de cette horrible mutilation se font toujours sentir et m'empêchent depuis de rester assis plus de 3 minutes d'affilée. Je vais donc devoir vous quitter.
Merci beaucoup.
Ça nous a juste un vœu avant de partir, cher Didier Deschamps. Vous n'avez que 2 étoiles seulement à votre képi, mais j'espère qu'un jour, comme moi, vous en aurez 7. Un maréchal, 7 étoiles,
je ne sais rien.
Voilà, bonne fin d'émission.
Merci.
Maggie. La bande originale.
Ce qui a été le plus difficile pour vous, Didier Deschamps, pour le match contre l'Allemagne, c'était de jouer le match contre l'Allemagne ou de serrer la main de Joachim Löw qui normalement met les doigts dans le nez pendant tout le match.
On se fait la bise, on s'apprécie tellement qu'on se fait la bise.
C'est
moins risqué.
Parce que l'entraîneur, non mais l'entraîneur allemand, il y avait des images de lui.
Quelquefois, il fait pire. Hein, il y a eu des images de lui.
Il se décolle, il enlève les rideaux de la fenêtre. Ouais, c'est ça.
Il serre les louches après.
C'est ça. C'est dégoûtant. C'est absolument dégoûtant. nous allons recevoir, mon cher Didier Deschamps, j'espère bien prononcer, monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur Nabil Amra qui va venir nous rejoindre ou Amra Ramouni, mais je vous demande de les accueillir. Ce sont les représentants du journal Le Buteur en Algérie. Et nous sommes là.
Ah, la valise de pognon.
C'est un joli coffre sculpté de bois. Installez-vous au micro. Vous êtes, j'imagine, Nabil Amra.
Oui.
Que je ne commette pas de bêtises. Soyez le bienvenu, monsieur Amra. Vous êtes directeur du journal Le Buteur.
Exactement.
Qui est un journal qui parle du football dans le Moyen-Orient. L'équivalent, pardon, de France Football dans le Moyen-Orient, si je peux me permettre la comparaison.
Non, pas en Moyen-Orient.
En Algérie.
C'est en Algérie.
En Algérie, très bien.
Ouais.
Et vous, vous organisez un prix.
Oui, exactement.
Ça fait tous les ans.
Tous les ans, on organise un prix pour le meilleur joueur du monde, le meilleur entraîneur du monde et le meilleur gardien.
Alors, comment se passent les votes dans votre prix?
Alors, il y a 22 pays arabes qui participent à cet événement. On choisit les télévisions, les radios, les journaux. Et chaque pays participe avec ce vote.
D'accord.
Et il y a des points pour chaque candidat.
22 pays arabes. Il y a 22 pays arabes.
22 pays arabes.
Non, il n'y a pas autant d'arabes, c'est pas possible.
si.
Mais non.
Si, il y a une population de plus de 360 millions.
Ça, il y a beaucoup d'arabes, je suis d'accord. Beaucoup d'arabes. Mais il n'y a pas 22 pays. Ils sont où les 22 pays?
Bah, tu prends tout le Maghreb. Tu prends.
Ça fait 4. Tu prends Algérie, Maroc, Tunisie.
Égypte ensuite.
Non, t'ajoutes... tu as la Mauritanie aussi.
Ah ouais. D'accord.
Le Soudan,
Djibouti, la Palestine, le Yémen.
Ok, on est à 9. J'attends les 22.
Non, il y a beaucoup pays. De qualité. Géographie, c'était pas sa matière principale durant ses études.
C'est vrai, je te confirme.
Une sélection de 22 pays arabes.
Ok, d'accord.
22 pays, joueurs dans une sélection.
Ok, très bien. Alors, qui a été élu meilleur joueur pour vous de l'année?
C'est
Luka Modric.
Donc, qui a lui aussi reçu le Ballon d'Or de France Football.
Tout à fait.
C'est ça, d'accord. Non, mais c'est pour situer le Croate.
De la FIFA.
Et the best de la FIFA. D'accord. Après, il y a combien de prix? Il y a le meilleur gardien aussi?
Le meilleur gardien.
Le meilleur gardien. Et quand par hasard, il a été champion du monde?
C'est Hugo Lloris?
Ouais.
Ah, très bien. Formidable. Formidable.
Très bon. Pourquoi Didier Deschamps, alors?
Alors, pourquoi Didier Deschamps? Il y a eu le vote, auprès de 135 médias arabes et qui a été élu, à l'unanimité, malgré c'est-à-dire la consécration de Zidane en Ligue des Champions. Zidane a terminé à la deuxième place, donc il n'a pas pu succéder à lui-même parce que c'était lui le meilleur entraîneur du monde l'année dernière. Et cette année-là, c'est Didier Deschamps.
Malgré Zinedine Zidane.
Malgré sa consécration en Ligue des Champions.
Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça s'est joué à peu de choses près entre deux, parce que c'est vrai que Zizou a été aussi deuxième au prix de la FIFA. Donc, est-ce que c'est le même genre de situation, c'est-à-dire ça se jouait ou l'un ou l'autre?
Non. Il y avait un écart
conséquent ou pas?
Un peu considérable. C'est-à-dire Didier Deschamps avec 466 points et Zinedine Zidane avec 345 points. C'est un peu plus de 100 points.
Oui, j'arrive à faire le calcul. Ça, en mathématiques, je suis meilleur qu'en géographie.
C'est la seule fois que j'ai réussi à avoir plus de points que Zizou.
Est-ce que dans votre classement, il y a des Belges?
Il y a des Belges.
Est-ce qu'il y a des Belges dans le classement?
Ouais.
Pour le quatrième.
Le gardien de but,
ouais.
Thibaut Courtois, il a terminé à la troisième place.
C'est pas mal, Guillermo, ou... tu vois, ouais, Guillermo.
Non, c'est pour lui parce qu'il fait la tête.
Continue, continue.
Nabil Amrajou, vous en prie, remettez donc ce prix, parce que là, c'est une, presque une cérémonie officielle que nous avons dans cette émission.
Un motif arabesque.
Ouais, mais approchez-vous, Didier, parce que comme ça. Non, mais approchez-vous, Didier.
Posez-le sur la table.
Waouh, mais c'est trop beau.
Magnifique.
Mais c'est le fait de pas tomber, hein.
C'est trop beau. C'est trop beau. Génial. Génial.
C'est comme le steak, hein.
C'est l'or du
Côte
d'Ivoire.
C'est en or. C'est en or.
Petit clin d'œil.
Écrit en arabe aussi.
Alors, pouvez-vous nous dire
votre nom en arabe?
Alors, ce qui est écrit en arabe, c'est Didier Deschamps.
Ouais.
C'est ça?
Exactement, ouais.
D'accord. Et le titre officiel, c'est meilleur entraîneur de l'année.
The best coach of the year.
D'accord. C'est de l'anglais, ça.
Voilà, ça, j'avais compris aussi. Formidable. Ben, merci, en tout cas, d'avoir profité de cette émission pour remettre ce prix.
Merci.
Moi, je vais faire l'émission avec.
Mais vous en faites. Pardon, mais il y a un moment où il va falloir trouver de la place pour tout.
Il y a de la place. J'ai une table. Ouais.
Vous avez quoi? Une table de trophées à la maison?
Un petit peu, ouais.
Quoi, un petit peu?
Oui, oui.
Non, parce que vous avez les répliques de la Coupe du Monde 98. Mmh. Je ne sais pas s'il y a des répliques de la Coupe du Monde 2018.
Oui.
Aussi? Mmh. D'accord. Et puis, alors, toutes les.
J'ai des répliques de.
De tous les trophées.
Pas tous, mais Ligue des Champions.
93 avec Marseille, vous avez une réplique.
Tu peux le dire, c'est pas grave.
Que l'OM,
Nagui,
que l'OM a eu. Ouais,
L'OM étant la coupe
seul,
de la Ligue.
L'OM étant le seul club français ayant gagné la Ligue des Champions.
Ouais, ouais. Le premier.
C'est vrai. Le premier, ça sera le premier à vie. Ouais. Mais pour l'instant, c'est le seul.
Ouais.
Le seul.
Ça a duré.
En tout cas, ils vont avoir cette année du mal à le regagner à nouveau, les pauvres. Mais on est tout cœur avec eux pour que ça aille mieux. Donc vous gardez tous les trophées.
Ouais, j'en garde, ouais. Mais c'est bien.
Mais il est beau celui-là.
J'ai des récompenses, oui, ils sont tous beaux.
Il faut faire de la poussière en même temps, il faut nettoyer. Hein. Faut pas,
il
n'y
en a pas qui finit sur le bon coin.
C'est compliqué, ouais.
Non, c'est comme les maillots, bon, j'en ai gardé quand je jouais.
C'est émouvant, j'imagine, oui, c'est émouvant de recevoir un prix, mais est-ce que celui-là a un goût particulier?
Oui, enfin la reconnaissance, je cours pas après ça, sincèrement. Elle est là en
ça
France, mais à l'étranger aussi, bien évidemment. Quoi. Donc, c'est toujours une fierté et un honneur, et il faut apprécier parce que c'est pas toujours évident.
J'ai pardon, hein, messieurs, j'ai une idée qui est pas très souriante, qui me traverse l'esprit, mais je suis sans filtre, je dis tout ce que je pense. On vous a accusé d'avoir des choix presque raciste de ne pas sélectionner des joueurs à cause de leurs origines arabes, recevoir un prix de la main du rédacteur en chef de ce journal algérien, Le Buteur, avec votre nom écrit en arabe, je vois ça.
Et
le drapeau de tous les pays arabes. Moi, personnellement, ça doit être ma part orientale, je suis ému de voir ce trophée, mais j'imagine que ça doit aussi vous faire quelque chose.
Oui, oui, ça me fait encore plus plaisir, bien évidemment, par rapport à ce qui s'est passé, des choses lamentables qui ont pu être dites, écrites, ou les conséquences que ça a eu sur ma vie personnelle et sur ma famille. Voilà, moi je suis dans le sport, j'ai toujours considéré que la diversité était une richesse pour le sport français, le football en particulier, et que depuis que je suis sélectionneur et même avant dans ma vie de joueur, voilà, aujourd'hui je fais des choix, je ne sélectionnerai pas des joueurs par rapport à des critères qui soient de couleur ou de religion. Ouais. Mais c'est pas pour ça que c'est aussi pire ou aussi grave de devoir les sélectionner pour ces mêmes raisons. Moi, je prends des joueurs qui sont français et qui sont fiers d'être français et de représenter notre pays, peu importe les origines culturelles et autres.
On le voit bien sur le terrain. Et on le voit sur le terrain.
On s'en rend compte dans cette équipe. Ouais. Mais pour resituer, pour ceux qui avaient raté les épisodes précédents, que ce soit des joueurs, et pour les citer, Eric Cantona, ou Karim Benzema, ou Samir Nasri, ou des gens autour, ou dans les réseaux sociaux, en tout cas, on vous avait accusé de ne pas sélectionner des joueurs, de ne pas refléter en tout cas la société française par votre sélection, ce qui était totalement dingue, mais c'était allé très loin, puisqu'il y avait eu des tags racistes, agressifs, sur la porte de votre propre maison, et c'est là où des lignes sont franchies, c'est-à-dire que ça devient
la ligne blanche,
oui. une agression familiale, quoi. C'est plus un critère sportif. On n'est plus en train de dire il est bon ou mauvais sélectionneur.
Tout le monde peut dire ce qu'il veut à la limite, mais là on franchit la ligne blanche et on m'attaque en tant qu'homme, ma famille, et puis voilà, j'ai des personnes dans ma famille aussi. Ma petite filleule, qui est une petite malienne, qui a été adoptée et qui habite juste à côté de la maison qui a été taguée. Ouais. Donc c'est une violence absolue. Moi, je suis prêt à prendre un peu les coups qui viennent d'en haut, d'en bas, de derrière. Les gens autour
mais
de
la
moi,
famille, les enfants, non
ça c'est pas...
Didier, c'est, oui. C'est la plus belle des réponses.
Mais voilà, la meilleure des réponses.
Merci, encore bravo le lutteur. Merci beaucoup. Voici Guillermo Riz.
C'est ça.
Bon vent. Il est là.
Il est là.
C'est pas grave.
Guillermo.
Ça va les amigos?
Mais oui.
Nous, oui.
On y est, hein?
On est où?
On y est, hein? Ça fait des semaines.
Quoi?
Que Nagui, il insiste pour que je sois dans l'émission d'aujourd'hui. Il était là. On a Deschamps, il faut que le Belge soit là, on va se le faire et tout. Voilà, Didier, je voulais juste vous prévenir ici à France Inter, Nagui, il vous appelle juste Deschamps. Pas Didier Deschamps ou Didier ou Ladèche ou Mondidou ou Macouille Deschamps. Genre juste Deschamps, quoi, vraiment. Je vous dis ça, Didier, parce que je sais que Nagui, il vous fait croire que vous êtes amis et tout. Et c'est important, mais j'ai vu des selfies de vous et lui sur Instagram, vous aviez l'air épanoui, Didier. Mais il faut que je vous le dise, en fait, Nagui, il fait des selfies avec tout le monde.
Vraiment,
il en a un avec William Prunier, il en a un avec la mascotte CTLM. Nagui, il fait des selfies avec des objets, vraiment. Moi, j'ai déjà vu une langoustine dire à Nagui, ça va, c'est bon, ça, c'est. Je veux pas casser un rêve, Didier, il y en a deux des relations asymétriques, hein. Et puis voilà, tant que vous y trouvez votre compte, c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'à la cantine de Radio France, Nagui, il est là. Je paye rien, je connais Deschamps, il me mange dans la main, Deschamps, il me doit 9 000 euros, Deschamps, tactiquement, c'est de l'esbrouf. Enfin, j'ai dit, la cocaïne n'explique pas tout, comme disait Leïla. Et en fait, c'est vrai, ça n'explique pas
c'est
tout.
Gratuit,
mais c'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui. Parce que Nagui s'est dit, je vais justement mettre un Belge à côté de Didier Deschamps. 9 chances sur 10, ça va finir en tesson de bouteille. Hein, il va lui crever un œil, etc. On va enfin faire un peu de buzz dans cette émission. Ça va redonner, tu vois, cette émission, le petit côté TPMP qui lui manque pour ravir le cœur des moins de 62 ans. Mauvais calcul, Nagui. Mauvais calcul. Parce que déjà, moi, je suis paraguayen. Guillermo Guise, allô quoi, vraiment. Guillermo Guise,
enfin,
là je suis de passage à Paris, mais le reste de ma famille, là, à Sanción, olé, tu vois, vraiment. Ensuite, Didier, je vous le dis très honnêtement, et ne le prenez pas mal, mais moi, je m'intéresse pas du tout au foot, en fait. Vraiment, c'est pas mon truc. Je sais pas pourquoi il fait des allusions depuis le début sur ça. Moi, j'ai regardé 2-3 matchs de foot quand j'étais moins éduqué.
Ouais.
Puis j'ai eu les moyens de m'acheter des livres, et donc j'ai un peu moins suivi, etc. Le foot. Et qu'on me comprenne bien, le foot, je trouve ça super bien que les gens ils fassent de l'exercice, etc. Et puis voilà, le foot, déjà, que le big deal s'est arrêté, tu peux pas enlever tout au masque, tu vois, je veux dire, c'est important, mais j'y connais rien, moi je savais pas du tout pour cette histoire de Coupe du Monde, j'étais pas du tout au courant. C'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai lu qu'en Russie, vous avez gagné une sorte de prix avec l'équipe française de football, c'est génial ça, franchement, et il paraît que c'était même télévisé et tout, vos proches ont dû être tellement fiers, vraiment bravo Didier, c'est vraiment c'est formidable, non? Le football, c'est vraiment le football, c'est... Moi ça me fait penser à cette célèbre phrase d'un joueur anglais, Jérôme Lineker, qui disait, je crois le foot, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin c'est toujours, je vais te tuer, Didier a envie de crever dans un purée dans une prison, et des nazas. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Et donc je disais, autant le football, je trouve c'est sympa, mais c'est un sport mineur, comme la luge ou le tir. Autant moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le hockey sur gazon. Ça, c'est mon sport. J'ai suivi la Coupe du Monde de hockey récemment, c'est la Belgique qui a gagné. Et je me disais, quel beau sport. Quand tu regardes l'équipe française ou l'équipe belge de hockey, c'est vraiment multiculturel. Il y a des joueurs de toutes les origines, il y a des blancs, il y a... En tout cas, c'est un très beau sport. Et donc, et la Belgique est devenue championne du monde, figurez-vous, le 16 décembre, jour de la fête nationale du Kazakhstan. C'est dingue, parce qu'en fait, on salue le président Nazarbayev, qui est lui aussi un ami personnel de Nagui. Nagui a animé son goûter d'anniversaire en présence de Tom Jones, de Kev Adams et d'Annie Dupéret. Et je sais pas si vous avez présenté le président Nazarbayev, Didier, parce que Nagui, il arrête pas de dire, ouais, c'est un type épatant, et Nazar ceci, Nazar cela. Il nous dit jamais ça de vous, en fait. Voilà, donc je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. J'adore cette phrase que vous avez prononcée un soir du 15 juillet, où vous disiez, cette Coupe du Monde, je la dédie au pays qui la méritait vraiment. Assez parlé de la Belgique. Allez, bonne émission.
La bande originale, Nagui sur France Inter.
Le traumatisme, quoi.
On va rappeler quand même que Guillermo est un malade du football, que t'as failli être joueur professionnel.
Ah, je vous aurais bien défoncé. On peut en parler maintenant.
Joueur professionnel.
Moi, j'ai toujours dit, je tiens à dire que la victoire de France n'était pas imméritée en demi-finale. Voilà, je fais partie de ces gens qui, en finale, c'est autre chose.
Il a pas dit qu'elle était méritée. Oui. Ouais. Elle n'était pas imméritée. C'est une formule.
Mais non. Hein, ouais, vous avez bien défendu.
Tu sais quoi, Guillermo? J'ai qu'une réponse à te faire.
Ah, c'est pas grave.
On avait regardé le quart de finale, tu sais, Brésil-Belgique, donc on...
Ouais.
Et on a vu que les Belges avaient bien défendu aussi.
Et bim!
C'est quoi? Une démocratie, ça se juge à la manière dont on traite ses minorités. Hein, voilà, moi je vois qu'on a un dictateur. C'est
important. Totalement. Et ton temps de parole est terminé. La musique, justement. Yeah, la musique pendant le mondial, ça a été beaucoup. C'est même amusant de se rendre compte que chaque victoire a sa musique quand même.
Ah oui.
Et ce qui est assez aussi sympathique, c'est que même cette hymne I Will Survive était aussi repris par les vainqueurs de 2018 aussi pour faire la fête.
Ouais. Ça a traversé les générations.
Ouais. Ça a marqué la fête. Ah,
je l'ai entendu celle-là. Comment, depuis 98.
Clairement. Comment faire pour que ce groupe continue entre guillemets de vivre? Il faut l'ouvrir. Vous n'allez pas forcément rester avec les mêmes 23 joueurs jusqu'à l'Euro. Et en même temps, il y a une sacrée base, il y a une sacrée génération sur laquelle vous comptez.
Bien sûr, parce que c'est une génération jeune, donc ils sont censés continuer, progresser encore, même s'ils ont été déjà très performants. Mais le groupe, oui, il évoluera comme il a évolué entre l'Euro 2016 et 2018. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais 2 ans au très très haut niveau, il y en avait 14 hein, qui n'étaient pas là en 2016 et qui étaient là en 2018. Je sais pas combien il y en aura. Je me fixe pas de delta non plus. Je ne dis pas 6, 5. Ça dépendra. J'espère que tout le monde pourra être disponible. Mais il y en a forcément qui se perdront
en
route.
Quand même, ouais, mais il y a quand même une colonne vertébrale sur laquelle vous espérez compter, en tout cas. Oui. Après, il y a toujours les problèmes physiques, évidemment.
Dans 2 ans, oui. J'ai quelques trentenaires. Ils avancent. Ils ont beaucoup moins d'années devant eux que derrière eux.
Et vous avez un gamin de 20 ans. Alors, c'est quoi cette histoire de... il aurait pris des claques, Kylian Mbappé. Il aurait reçu des gifles. C'est quoi?
Mais il faut lire le début, le milieu et la fin de la phrase. Si on ressort que ça, si Kylian a vu ça, il a dû se dire mais le coach, il va pas bien ou quoi? Non, mais c'est par rapport à la nouvelle génération, si elle aurait pas pu faire et dire ce qu'elle fait aujourd'hui il y a 20 ans, parce que c'était pas du tout le fonctionnement.
C'était pas l'état d'esprit à l'époque. Oui.
C'était pas comme ça. Et pour parler, c'était juste s'il fallait pas lever le doigt, c'était peut-être à l'exagérer dans le monde sportif, mais le jeune, il était là, et respect aux anciens. Il y a toujours du respect, mais aujourd'hui, le jeune qui arrive, mais pas que dans le sport ou dans le football, même à la radio, il y a un de 20 ans, il va arriver, Nagui, je vais te prendre ta place. Mais ça va être de l'arrogance, mais il le pense, il va tout faire pour y arriver. En football, c'est pareil.
Il n'est pas aussi jeune que ça, que c'est un trapneur. Hein.
On va parler musique un tout petit peu, puisqu'il n'y a pas que pendant les séances de gainage que Didier Deschamps écoute de la musique. On va commencer en 1982. Et Jean-Jacques Goldman. Que vous connaissez, Jean-Jacques Goldman, vous l'avez croisé ou pas?
J'ai eu l'occasion de le rencontrer à travers les Restos du Cœur. Voilà, c'est quelqu'un que, au-delà de son talent de compositeur, de chanteur, voilà, un gros cœur, une humilité, une sensibilité, un grand monsieur.
C'est une leçon de comportement aussi vis-à-vis peut-être des médias, parce qu'il se fait très très rare. Est-ce que c'est...
Je me fais beaucoup moins rare.
La preuve. Merci d'être là aujourd'hui.
Je suis beaucoup plus exposé, mais c'est un choix. Mais bon, je pense qu'il est heureux comme ça.
Et 82, Didier Deschamps, c'est l'année de votre arrivée à Nantes.
C'est 3. 83.
Vous quittez le cocon familial.
Oui, Bayonne.
Le Pays Basque,
Pour Nantes.
Pour Nantes. Alors j'imagine que déjà, au-delà de l'activité sportive, c'est déjà quitter un environnement, des habitudes. Ça doit être difficile quand on est un jeune
évident,
homme.
J'avais pas encore 15 ans, mais c'était mon choix. On m'a laissé choisir. Mes parents m'ont laissé choisir. Donc,
Ils vous faisaient confiance au point de vous dire...
Ils ne voulaient pas que je leur reproche après leur choix. Donc, il m'a dit, tu vas où tu veux.
Je pensais pas qu'il voulait se débarrasser de vous.
Et vous rencontrez là-bas quelqu'un qui est important pour vous?
Oui, très important.
C'est Marcel de Sailly.
Oui.
C'était votre copain de chambrée, quand vous racontez.
On avait à peu près le même âge et puis on a fait toutes nos classes ensemble, les équipes de France de jeunes aussi. Voilà, lui aussi était un des joueurs les plus médiatisés localement. Moi, j'arrivais
de Bayonne, donc on a fait notre parcours.
Et c'est une amitié qui tient toujours. Ça fait, fait 30-40 ans que vous êtes potes et ça continue.
On s'est revus dernièrement où j'ai reçu un prix à l'étranger. Oui, toujours. Et puis bon, on voit qu'on a. Là, je passe puisque les enfants, ses enfants ont grandi. Le mien a grandi aussi, mais voilà, Marcel, c'est Marcel, oui. Et ça restera Marcel.
Et ça ressemble à quoi la vie d'un jeune homme? Vous avez 14 ans à peu près?
Oui.
Le centre d'entraînement,
le premier mois,
quotidiens.
Pas terrible. entraînement, je suivais mes études, j'étais un peu... comment je vais utiliser le terme? On m'en avait tellement parlé de moi aux joueurs qui étaient là que quand je suis arrivé, ils me l'ont fait payer.
Ah. Parce que vous étiez aussi un gros buteur. Vous aviez marqué 200 buts, je crois, quand vous étiez
mais
minot.
Dans les catégories de jeunes. Et puis, j'ai été un âge, plus j'ai reculé. Après, j'avais interdiction de dépasser le milieu de terrain. Non, mais j'étais avant-centre ou numéro 10 dans les équipes de jeunes.
Donc, avec la pression de c'est un buteur, il faut qu'il marque des buts. Sinon
ouais,
on est
mais c'est plus le fait, c'est Robert Buzinski en disant tous les jours, il barre les joueurs qui étaient là-bas, on prend un phénomène, moi je ne savais même pas, j'arrive là, et quand je suis confronté, parce qu'un centre de formation, c'est loin d'être un club med, c'est une jungle,
c'est
on est 20, et chaque année il y en a qui partent, c'est une pyramide, donc il y a forcément beaucoup de concurrence, donc j'ai mis quelques mois à être accepté par le groupe là-bas, et après j'ai passé de merveilleuses années à Nantes.
En 1996...
Quand je la regarde, mais oui. Moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant... Ah.
C'est pas n'importe quelle chanson.
Ouais.
Le géant de papier.
Ouais. Le Strauss-Kahn.
C'est...
Jean-Jacques Lafont.
Ouais. Oh, c'est la chanson, c'est ma chanson avec ma femme.
C'est-à-dire
on l'écoutait.
Vous entendez cette chanson, vous voyez tout de suite votre épouse. Mmh.
Mais... C'est notre chanson, c'est pas ma chanson, c'est notre chanson.
D'accord, ok, c'est clair.
Elle est magnifique. Elle est d'accord ?
Hein ?
Votre femme est d'accord ?
Elle est toujours d'accord. Elle est toujours avec moi. Pour mon plus grand bonheur d'ailleurs.
Oh, c'est joli, c'est joli. 96, Didier, vous devenez capitaine de l'équipe de France.
Oui, avant l'Euro, oui, tout à fait.
Capitaine, c'est.
Mais il y a surtout mon fils qui naît aussi.
Oui, il y a Dylan qui naît. Donc c'est deux événements comme ça où d'un coup vous devenez en charge, quoi. Père de famille. Aussi un peu capitaine, c'est ce rôle un peu particulier d'être...
Et dans le côté négatif, je perds une finale de Ligue des Champions, mais bon...
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mais bon, oui, c'est forcément d'être papa, c'est quelque chose de merveilleux. Ça n'a rien de comparatif avec le fait d'être capitaine ou pas capitaine. Ça, c'est ma vie professionnelle, mais dans ma vie...
Mais est-ce que ça rejaillit, justement, le fait d'être papa et ensuite...
Ah ben, ça change la
vie
quand même.
C'est une responsabilité aussi,
oui. Bien évidemment,
Vous aviez un côté quoi, plus paternel aussi avec vos joueurs ou plus enrobant, plus...
Ben là, j'étais joueur, hein.
Voilà,
on a une vie de sportif où on passe pas beaucoup de temps à la maison.
Ouais.
J'étais dans un grand club, la Juventus de Turin, avec des matchs, des déplacements, mais j'ai fait en sorte... c'est ma femme qui a éduqué mon fils, qu'il a très bien fait d'ailleurs, heureusement, mais le peu de temps que j'avais à disposition, je le passais avec lui, mais c'était jamais assez de temps. Quoi.
Alors justement, à propos de votre fils, ce que vous écoutiez en 2000, je pense que ça a aussi un rapport avec une naissance. Même s'il y a un léger anachronisme entre le titre et l'année, c'était pas vraiment
magnifique.
2000, ouais, mais.
C'est Pascal Obispo.
Ça vous, elle vous touche, cette chanson.
Ouais.
2000, c'est plutôt la fin de carrière, là.
Fin de carrière en tant que joueur.
Enfin, oui. Baisser de rideau, en équipe de France.
Et ça, c'est douloureux ou pas, rétrospectivement?
Ouais. Une partie de moi s'est éteinte. L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. J'ai connu d'énormes joies dans les clubs, mais j'ai pris la décision d'arrêter parce que je pense que c'était le bon moment.
Vous préfériez arrêter vous-même qu'on vous dise au revoir?
Ouais, ou continuer. J'ai tout eu. J'étais capitaine, je jouais tous les matchs et pour faire un intermittent du spectacle, ça n'avait pas de sens pour moi, surtout qu'on venait d'être champion du monde, des champions d'Europe. Et puis parce qu'il y avait des jeunes, il fallait les laisser la place, quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais après, les conséquences, même si je continuais quand même ma carrière à Valence, en Espagne, les lendemains ont été plus difficiles.
Ouais, c'était pas un manque. Valence,
c'était
pas non plus la meilleure expérience footballistique.
Oui, finaliste de la Ligue des Champions.
Ouais, mais enfin, vous n'étiez pas totalement épanoui en Espagne, par rapport à la Juve.
Non, j'étais un peu au bout du rouleau aussi, corps, j'avais les...
Des signaux.
Oui. Alerte rouge.
Mais il faut quand même dire qu'il termine sa carrière avec un palmarès, mais insensé. Parce que c'est pas...
Ouais, c'est bien rempli, j'ai quelques trophées.
C'est enfin, il y a quand même quelques défaites.
Oui, il y a eu des défaites cuisantes aussi, mais elles sont parties.
Alors justement, le livre, Bernard Pasquito nous a rejoint, bonjour, merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Vous avez publié un livre en 2013,
oui,
qui s'appelait La face cachée de Didier Deschamps, et justement vous commenciez sur cet arrêt en 2000, c'est-à-dire cette discussion avec Roger Lemaire sur le terrain, discussion qui est traduite à distance par les images, on lit sur les lèvres. Et d'ailleurs, depuis, il y a ce fameux geste. Voilà. Depuis,
j'ai pas déposé la marque.
Bah, tu devrais, parce que dans le monde entier, maintenant, il n'y a pas un joueur de foot qui parle sans mettre la main devant la bouche pour pas que les médias comprennent ce qu'ils disent.
Oui, il y a plusieurs médias. Il y avait France 2, notamment, Paris Match, qui ont payé qui ont payé des spécialistes pour lire sur les.
Ils n'ont pas tous été bons, quand même. Hein,
mais, globalement,
c'est
ce que vous dites dans le livre. Ce qui s'est dit, c'est je pense à ma famille, j'en peux plus. Je m'arrête.
Ouais, j'en peux plus. C'était très émouvant en même temps. Dans ce moment-là, qui était un moment de joie, et puis ces deux hommes qui étaient en train de faire cette espèce de danse au milieu du terrain, comme s'ils étaient seuls au monde, alors qu'ils n'étaient pas seuls au monde. Il y avait des dizaines de millions de gens qui voyaient ça. Et puis c'était une fin de quelque chose, évidemment. Il vient de l'expliquer. Donc c'était une décision, parce qu'il faut dire que Didier avait été très très contesté dans les semaines qui avaient précédé la finale. Certains médias sportifs disaient qu'il avait plus sa place sur le terrain, qu'en fait il avait sa place parce qu'il était capitaine et qu'il était stratège, etc., mais qu'il y avait mieux que lui, etc. Et je pense qu'il en a beaucoup souffert, et que à un moment donné, il a pris la décision qui s'imposait. Encore fallait-il savoir la prendre aussi.
Parce c'est une forme de courage aussi de dire là je m'arrête.
Bien sûr, oui, quand vous êtes en pleine réussite et en pleine gloire.
Ceci dit, quand on voit le résultat de 2002, il a bien fait de s'arrêter en 2000. Ok, donc c'était une vanne gratuite, je suis d'accord.
On peut penser aussi que ça aurait peut-être été différent.
S'il était resté, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vu qu'en 2002.
Moi, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'en 2010, s'il avait été là en 2010, il serait peut-être descendu du bus, hein, tout le monde là.
On va vous poser la question, Didier.
Je ne vais pas y répondre. J'y étais pas. Ça me concerne pas.
On n'imagine pas que ça puisse arriver avec vous, une grève de joueurs. La manière dont vous voulez.
On n'imagine pas, tant qu'on n'est pas confronté, j'y étais pas, je sais plus ou moins comment ça s'est passé. Il y a toujours le risque, quand on est en concentration pour une compétition comme une Coupe du Monde ou un Championnat d'Europe, il y a une forme d'isolement, on est dans une bulle, mais il ne faut pas être, bon là c'est moins le cas parce qu'ils sont connectés avec les nouvelles technologies, mais de ne pas être complètement à l'écart de ce qui se passe.
Il n'empêche que depuis Nysna, l'affaire Anelka et le comportement de Domenech, à ce moment-là, ce qui se passait au vestiaire n'est plus resté dans le vestiaire. Contrairement à ce qui se passait avant. Ce qui se disait dans le vestiaire ne sortait jamais.
Je ne me bats pas pour ça. Je sais très bien que quand je passe à mes joueurs dans le vestiaire, 5-10 minutes après, tout est dehors. Volontairement ou involontairement, ou à travers leur agent, leur frère, le père, un ami, le conseiller, ils répètent et puis après... Je sais très bien comment fonctionne le circuit. Ouais. Ça arrive jusqu'à un média qui le sort et puis c'est repris, des fois mal repris. Ce qui est le plus gênant, aujourd'hui, avec la multiplication des médias, c'est que l'info est pas vérifiée. Il y a souvent des choses qui sortent et qui sont erronées. Ça, c'est plus gênant. Mais bon, je vais pas perdre d'énergie.
Ça
aujourd'hui.
Veut dire que vous êtes vigilant par rapport à ça? Vous faites attention à ce que vous dites dans le vestiaire?
Oui, mais je m'en... pêche de dire
de pousser un coup de gueule s'il faut pousser un coup de gueule.
Après qu'ils en parlent ou qu'ils en parlent pas, sais qu'ils en parleront.
La face cachée de Didier Deschamps, vous avez mis en photo, en couverture, un jour où il avait une gastro apparemment, hein, parce que
non, il revient vers son banc, je pense.
Il est contrarié en tout cas. Mais
j'étais surtout en surpoint un petit peu. Ça c'est clair. J'avais 20 kilos de plus, mais bon.
Moi j'aime bien la photo.
Vous avez voulu montrer un autre Didier Deschamps dans ce livre.
Oui, la face cachée. Il y a beaucoup de gens qui croient que la face cachée, c'est parce qu'on va révéler des secrets inavouables sur.
On va penser à Yannick. Nagui qui dit des trucs dégueulasses sur Didier Deschamps.
Non, la face cachée, c'est parce que c'est essayer d'expliquer aux gens, à un certain nombre de gens, que Didier Deschamps, c'est pas ce qu'ils peuvent croire comme ça quand ils le voient à la télévision, etc. Et notamment à des gens qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas le football, qui s'empressent de penser que les footballeurs sont tous des imbéciles, qui savent pas s'exprimer, qui savent pas penser, etc. Ben, c'est ce que je pense que Didier Deschamps, c'est le contraire de ce que pensent certains gens, à savoir que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la stratégie, qui est tout le temps dans la pensée, qui réfléchit.
Mais vous dites qu'il est bon en mathématiques même, c'est l'une de ses qualités.
Ah, ça c'est pas moi qui ai pu le vérifier.
De calculateur. Non mais au sens calculateur du terme.
Oui bien sûr. Non mais je veux dire c'est quelqu'un. Moi je suis toujours impressionné par exemple quand je le vois annoncer une liste pour une compétition etc. Il y a jamais une faute, il y a jamais machin, tout est clair, tout est pensé etc. On en a vu d'autres. Qui était moins excellent et je trouve que voilà il y a une façon de toujours savoir lui ce qu'il veut faire et surtout la façon de l'expliquer avec une dialectique.
Ce que je vous propose, si vous en avez le temps, vous restez avec nous après les infos de midi, parce qu'on a pas mal de choses encore à se dire, et je voudrais pas qu'on soit pris par le temps et que nous soyons frustrés de cet échange.
Je vais l'annuler.
Non, c'est un petit décalage, tout petit décalage. J'ai promis de rendre à l'heure, c'est pour ça. Tanguy Passureau, Tanguy, bonjour d'abord.
Bonjour, bonne année.
Vous savez, Tanguy, j'adore votre prénom, j'ai failli m'appeler Tanguy.
Oui, moi aussi, parce qu'il symbolise l'âme celte, hein, ces gens en ciré Gucoten qui sont les seuls à trouver que le son de la harpe est envoûtant. Seulement Étienne Chatillès, réalisateur du film Tanguy, qui m'a volé les plus belles années de ma vie. Récidive, Tanguy 2 va sortir au printemps. Non. Ce midi, je lui déclare la guerre.
C'est bon, Julien, bienvenue si vous nous rejoignez avec les lacs de Boudin, Daniel Morin,
bravo.
Guillaume Guise, Albert Aldoux, Tanguy Passureau et notre invité Didier Deschamps.
Le géant de papier,
champion du monde. Non, on t'entend, le micro est ouvert, fais attention, le micro est ouvert. Qui vient d'être élu dans cette émission par le magazine Le Buteur comme meilleur entraîneur de l'année, et ce par 22 pays du Maghreb, du Moyen-Orient, Qatar, Émirats Arabes, Égypte, Arabie Saoudite et autres pays comme la Palestine. Non mais je voulais les citer parce que tout à l'heure c'était un tout petit peu un flou artistique. Donc Didier a reçu ce nouveau prix, je sais pas c'est le combientième, on va rajouter évidemment le prix du meilleur entraîneur de l'année 2018 par France Football et celui du meilleur entraîneur du monde par la FIFA en septembre, sans parler de tous les autres honneurs comme le grand prix du rayonnement français qui lui a été remis également à lui et à tout son staff par Jean-Yves Le Drian, ministère des Affaires étrangères. La Légion d'honneur, vous l'aviez reçue en 98,
ouais.
C'est ça ? Mmh. Donc on peut pas avoir une deuxième Légion d'honneur parce que là tous les joueurs
sont
chevaliers de grade. Chevalier.
Ah, voilà. Hmm. Ah, vous êtes gradé maintenant ?
Bah oui, un grade de plus.
Et je dois vous appeler comment alors ? Mon chevalier ?
Mon chevalier.
Et s'il y a une guerre, vous êtes mobilisé ou pas ? Faire attention. Hein.
On va pas sauter ça. Voici Tanguy Passureau. Bon, Tanguy, vous en avez marre.
Ouais, je suis en colère. Si je m'écoutais, je pèterais tout dans le studio. Mais comme j'ai pas envie que les travaux après soient retenus sur ma paye, ce mois-ci, il y a déjà le prélèvement à la source. En voyant mon bulletin, je vais avoir l'impression de bosser pour Radio Kenley à Bordeaux. Bon, bah, je reste calme. Si je suis énervé, c'est à cause de Tanguy. Pas moi, puisque je m'adore. Hein, c'est normal. Je suis adorable. Ce mélange de masculinité et de sensibilité qui fait dire aux gens, purée, en breton, on connaissait Michel-Édouard Leclerc et Nora Malagré. Bah, celui-là est quand même au-dessus. Je veux parler du film Tanguy. Ce navet infâme, sorti en novembre 2001, deux mois après le World Trade Center, ça a été une période épouvantable. Film qui a fait rire les Français, 4,5 millions d'entrées. Les gens sont des cons. Et après, on parle de leur donner la parole avec le RIC. Mais pitié, surtout pas, faites juste parler Benjamin Griveaux. Il dit bien assez d'âneries pour tout le monde. Mais j'ai pour le film Tanguy la même haine qu'ont les Belges pour Didier Deschamps. Vous croyez que c'est un hasard s'il fait notre émission plutôt que celle de Charline Van Honecker et Vizorek ? Non, s'il va là-bas, il ressort avec des frites dans le rectum, ce qui aurait fait une bonne scène bonus dans le DVD de Bienvenue chez les Ch'tis, mais Kenmarad est tellement coincé. Alors on a bien Guillermo qui est belge, mais enfin il peut rien dire, il est en infériorité numérique, tel un identitaire qui ferait le Jamel Comedy Club. Alors pourquoi, me diriez-vous si vous suiviez cette chronique, est-ce que je déteste le film Tanguy ? Eh ben c'est parce qu'à partir du moment où celui-ci est sorti, et ce durant pendant 10 ans, 90% des gens que j'ai croisés à qui je disais je m'appelle Tanguy ont répondu « Et t'habites toujours chez tes parents ?» Ensuite ils riaient, pensant être les premiers à me la faire. Comme dirait Guillermo, ça donne envie de crever dans un sujet-verbe complément tenté par Franck Ribéry. Oui, j'en ai chié. C'est un miracle que ma détestation du 7e art ne m'ait pas poussé hier à hurler « Frère Lumière Akbar » avant de me faire péter à côté de Julie Gayet. Tanguy, c'est un scénario indigent, des acteurs nuls, un réalisateur à court d'idées. À côté, mon curé chez les nudistes, c'est du Stanley Kubrick. Le pitch, souvenez-vous, un trentenaire refuse de quitter l'appartement de sa mère. Ce qui, chez les juifs, n'est pas une comédie, mais un rêve secret. Et ses parents vont tout faire pour le dégoûter de rester. Transposé aujourd'hui, ils écouteraient RMC Info, afficheraient des posters de Castaner dans le salon, glisseraient dans sa veste des tickets pour le live de Kinvey. Mais l'autre s'accroche, telle une moule à son poteau ou Olivier Faure au Parti Socialiste. Et à la fin, sort avec une jeune chinoise. Pour Yann Moix, Tanguy, c'est un porno. Hein, chaque soir, il se touche en le regardant, avec sur les genoux le catalogue Nouvelle Frontière, ouvert à la page de l'hôtel Club du Dragon épilé, à Pattaya. Bref, ce film navrant. J'aurais pu l'aimer si Étienne Châtillès, réalisateur, lui avait pas donné ce prénom. Ah, ça, comme dirait Elisabeth Lévy ou Renaud Camus, c'est plus facile de se mettre à dos les Tanguy qui sont 14 en train de moisir dans leur chouchène que les Toufik. Hein, parce que là, ils se mettaient toute une communauté à dos.
Mais alors, pourquoi votre blessure liée à ce film ne s'est pas refermée depuis ?
Eh ben, parce qu'on a appris qu'il y aura un Tanguy 2 le 10 avril. Le teaser est sorti lundi, c'est reparti. Mon existence à nouveau va plus être qu'un grand vide peuplé de crétins me demandant si j'habite chez mes darons. J'en peux plus. Châtillès, sur qui je lance ce midi une fatwa athée. C'est la même chose qu'une fatwa, sauf qu'on ne fait rien parce qu'on pense que là-haut, il n'y a pas une seule vierge qui attend, comme dans une télé-réalité d'Énergie 12. Châtillès ne réalise pas que ça fait 16 mois que chronique après chronique, j'essaye de réhabiliter le prénom Tanguy. Sans succès, puisque même Nolwenn Leroy a appelé son fils Marin pour un breton. C'est comme si dans les Ardennes, le petit s'était appelé Sanglier ou Suicide par pendaison. Et là, il sabote mes efforts. Mais ne le recevez pas en avril, Nagui, parce que je vais le défoncer. Je vais la lui faire à la Boubacaris, un neurone pour deux et mon poing dans le nez. On devrait interdire l'utilisation des prénoms dans la fiction, parce que derrière la vanne, des gens souffrent. J'aurais pas aimé m'appeler Régis du temps des nuls. Quand il faisait Régis, c'est un con. Même Didier. Pendant longtemps, ce prénom faisait juste penser à Alain Chabat en chien en train de sentir le cul de sa nièce. Mais monsieur Deschamps, mais c'est là que vous avez puisé cette rage qui a fait de vous un champion du monde. Bon, moi, j'ai pas trop suivi, mais Nagui, sur juin-juillet, a fait 48 fois l'aller-retour Paris-Moscou. Il prenait l'avion comme nous, le RER, pour Cergy Préfecture. Il a pété le bilan carbone de Polnareff quand il tente de dompter la brebis sur sa tête à coup de Studio Line. D'ailleurs, double difficulté, vous vous appelez Deschamps. À l'école, ce repère de petits glandus sans poils en kickers, vous avez dû en entendre des trucs comme la belle Deschamps. Fromage de l'époque, c'est ça qui vous a poussé à ne pas changer de sexe. Malgré le peu d'intérêt qu'il y a au fait d'être un homme, à part gagner plus. Leïla, pareil. Oui. À chaque fois qu'on dit son prénom, moi je pense à Eric Clapton, coiffé comme Luc Ferry, en velours qui pue le vieux. Quand j'entends le prénom Daniel, bon bah là je pense à rien, puisque c'est un prénom générationnel et que tous les autres sont morts. Donc ce midi, je m'adresse à Étienne Châtillès, enfoiré. T'as 3 mois pour changer le nom de ton film. T'appelles Allociné, tu dis j'ai changé, c'est plus Tanguy, c'est Adolphe. Il n'y en a plus des Adolphe à cause d'Hitler. En plus, ça te permet de surfer sur la vague d'antisémitisme. C'est du win-win. Mais Tanguy, oublie, parce que moi, j'en reprends pas pour 10 ans.
Merci, Tanguy Passion.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Bravo, Tanguy.
Reparlons avec vous, Bernard Pascuito, la face cachée de Didier Deschamps. Tout à l'heure, vous avez complimenté Didier Deschamps en disant la face cachée, on s'attend à du mauvais, à du bad buzz, en disant ceux qui ne connaissent pas le football ne se rendent pas compte qu'un joueur de foot ne sait pas s'exprimer, n'est pas aussi intelligent. Donc c'était plutôt des compliments que vous faisiez à Didier Deschamps sur sa manière de s'exprimer, de communiquer et de se comporter. Mais j'ai lu votre livre, on ne peut pas dire que ce soit un livre fait de compliments, on est d'accord ?
Non, mais c'est ni un livre à charge, ni un livre cirage de pompe. C'est une enquête sur un personnage. J'ai retrouvé il y a quelques jours une grande page dans Nice Matin, j'avais donné une interview et ils en ont fait le titre, c'est un personnage de roman. Ouais. Et je trouve que ça résume très bien Didier Deschamps. En tout cas, je peux vous dire que quand vous écrivez sur lui, quand vous faites... Moi, j'ai travaillé un an à peu près là-dessus. C'était vraiment passionnant.
Et vous ne l'aviez pas interviewé pour ce livre qui parle de lui?
À la fin de le dernier chapitre, je donne...
Il y a une communication téléphonique.
Je donne une conversation de 20 minutes au téléphone. Il a eu la gentillesse de me rappeler...
Il vous a rappelé pour dire qu'il ne participerait pas à votre livre. Et vous vous appuyez sur cette discussion pour l'écrire.
Exactement comme ça. Il a dit, qu'il ne voulait pas participer à quelque chose qu'il ne contrôlait pas entièrement. Ouais. Je lui ai dit que ça correspondait exactement à l'idée que je m'étais faite de lui. et que c'est très bien, mais que moi, c'était mon livre.
Non, mais c'est ce qu'on voit dans le livre. C'est-à-dire que dès l'instant où, et vous faites partie de ceux qui disent que dans les affaires du football, que ce soit l'affaire OM Valenciennes, que ce soit la Juventus de Turin, il y a Didier Deschamps qui est derrière, qui est quelque part, qui forcément n'ignorait pas que...
Ça c'est pas une vue de l'esprit. Bernard Tapie. C'est comme ça. Je veux dire, après moi je n'en tire pas de conclusion.
Bah si, un peu quand même, parce que
par exemple Ginola qui dit, qu'il a surnommé Passepartout, je crois. Des choses comme ça, mais oui, ça fait partie du personnage.
Non, mais de dire de quelqu'un, il y a eu que deux grosses magouilles au monde, entre guillemets, au football, bien qu'il y en ait eu plus, à mon avis, et ne retenir, ne sortir que ça en disant l'affaire VAOM, c'est lui, et le dopage de la Juventus, il y est aussi forcément pour quelque chose, alors que tout ça a été jugé, qu'il y a eu un travail, il y a eu des enquêtes, il y a eu donc des juges, il y a eu des condamnations, il y a des gens qui sont allés en prison, en l'occurrence, je ne crois pas que vous ayez été impliqué dans ces histoires. Pourquoi l'écrire en laissant planer comme ça une odeur nauséabonde de suspicion? Je comprends pas.
Il n'y a pas de suspicion. J'aimerais bien vous montrer
J'ai lu le livre, excusez-moi. Moi je l'ai lu.
Il y a des faits. Zinedine Zidane a été, par exemple, dans l'affaire du dopage.
Mais ils étaient interrogés en témoin. Ils n'étaient pas accusés. C'est pas pareil. Vous voyez la différence?
Il y a un endroit où j'écris qu'il a été accusé.
Ça vous pouvez pas, autrement ça. C'est ça vous aurait coûté certainement plus cher que que le livre vous a rapporté.
Non, mais vous voyez.
Il peut avoir été accusé.
Accusé
et coupable.
Mise en examen, je connais la.
Oui, donc.
Bernard, assumez ce que vous écrivez, c'est ça que j'aimerais comprendre.
Tout à fait.
Donc de le présenter comme ça, de recueillir que moi j'ai trouvé beaucoup de témoignages négatifs, que ce soit le José Anigo, que ce soit les anciens présidents de l'OM, ceux qui
les a choisis.
Ouais, voilà.
Non.
C'est le sentiment que j'ai.
Dans les questions qu'on m'avait soumises, avant l'émission, il y en avait une qui est très intéressante. Peut-être que vous alliez la poser, d'ailleurs.
Je sais pas. Je pose des questions qui me passent par la tête.
Si les gens avaient refusé de me parler, mais c'est intéressant parce que je n'ai absolument pas choisi. Moi, j'ai parlé à tous les gens qui voulaient bien me parler.
Vous avez eu beaucoup de proches. Je me rends pas compte pour faire une enquête comme ça. J'imagine que pour que ça soit un peu solide, il faut
avec Bernard Tapie, comment s'appelle-t-il, Jeanne Overt, qui a été l'agent de Didier pendant 18 ans, un truc comme ça. Pas très loin. D'ailleurs, c'est un mélange. Jeanne Overt, par exemple, c'est un très beau témoignage. Et puis moi, j'ai choisi pour ce livre. Je le fais pas toujours.
Il dit des bêtises, mais c'est pas grave.
Ah oui, non, mais ça, c'est
non,
pas...
Non, mais c'est là où, moi, ce qui me gêne, je sais pas, vous avez des enfants?
Oui.
Vous avez des
vous
parents?
Vous en voulez?
Je l'espère pour vous encore, une
non,
famille.
Non, j'ai jamais eu de parents, mais...
Vous pouvez pas vous imaginer le mal que vous faites. Moi, je suis prêt, vous écrivez, vous faites parler des gens qui m'aiment pas, qui me détestent, il y en aura...
Mais Jeanne Overt te dit des choses très méchantes?
Ah, des choses vraiment pas très sympas. Pas spécialement que sur moi, plus par rapport à ma femme, et qui sont totalement, fausses. Et d'autres personnages, à travers de donner la parole à certaines personnes, c'est pas être à charge, à décharge, ça engage que ces personnes-là, mais de rendre crédible, d'écrire ce qu'ils ont pu dire, je peux vous assurer que vous faites du mal. J'espère pour vous, je le dis sans arrière-pensée, qu'on n'écrira pas un livre sur vous un jour. Parce que vous verrez vos enfants, votre famille, comment ils ressentiront ça. Je vous assure, c'est d'une violence sur le moment. Après, tout passe. Et je retiendrai juste une chose, et je ne suis pas du tout rancunier ou quoi que ce soit. C'est vrai que votre bouquin est sorti à une période qui aurait pu être changer totalement mon
avis, 2013.
Puisque ouais. C'était en 2013, entre le match aller en Ukraine où on perd 2-0 et le match retour où il y a 4 jours. Vous avez eu l'occasion de participer à beaucoup, beaucoup d'émissions et de plateaux pour faire la promotion du livre. Vous avez dit sur une interview, je l'ai revu encore dernièrement, jusqu'à dire, bon, certainement vous avez l'impression de me connaître, de me voir différemment à travers les différentes personnes que vous avez interrogées, que si je me qualifie pas pour ce match-là, vous ne pensiez pas que j'allais me tirer une balle dans la tête, mais que vous ne l'espériez pas. Là, c'est pareil par rapport à ce que vient de dire
Nagui, ouais.
Tout en le disant. Vous imaginez les mots, et ce sont vos mots, je peux vous assurer, peut-être vous en rappelez pas, parce que vous avez
Je ne me rappelle pas du tout de ça, et j'aimerais bien savoir dans quel contexte...
20 minutes. Interview à 20 minutes.
Alors 20 minutes, je vais vous dire, c'est une interview.
Ah, ils ont trafiqué l'interview, ça arrive aussi. J'en suis assez victime.
Non, parce que
c'est les mots aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de plus en plus.
C'est marrant parce que je pensais que vous alliez me citer autre chose qui m'a rendu fou de rage. J'ai demandé à la maison d'édition à l'époque d'attaquer, de demander un droit de réponse. Mais c'était pas pour ça, parce que alors ça, je l'ai même pas lu, je pense. Vous voyez?
Non, mais Bernard Pacito, c'est quand même violent de dire d'un sélectionneur, il ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde.
Non, mais je viens de vous dire que je ne l'ai pas dit. Non, vous pouvez toujours me dire que c'est violent, c'est même très violent. Je ne l'ai pas dit.
Vous êtes journaliste.
Si je peux finir,
je vous en prie.
J'allais donc, justement, à propos de cette interview de 20 minutes qui m'est restée en travers de la gorge depuis 5 ans, il y a un titre que je n'ai pas supporté parce que je n'ai jamais dit ça. C'est ils me font dire, entre guillemets, il a une obsession malsaine. De la victoire. Et moi, j'ai hurlé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'on fasse un droit de réponse en disant, mais de quel droit, moi, je dirais qu'il a une obsession malsaine de la victoire.
La question qui se pose aussi, finalement, c'est quand on fait un livre dit d'enquête, qu'on recueille des témoignages, dans quelle mesure vous les recoupez, vos témoignages? Parce qu'on est des journalistes, on peut expliquer quand même à nos auditeurs qu'on n'avance pas des éléments, des faits, s'ils ne sont pas recoupés au moins à 3-4 reprises, pour dire que, surtout quand il s'agit de la vie privée d'un individu qui ne la confie pas au grand public, pour pouvoir écrire des choses comme ça. Parce que finalement, dans ces articles dont vous venez parler, vous êtes victime de déformations ou d'expressions malheureuses qui ne sont pas les vôtres, mais en réalité, c'est un miroir avec la situation de Didier Deschamps, c'est-à-dire que le livre que vous avez commis, vraisemblablement, reprend des propos d'individus que vous n'avez peut-être pas pu recouper. Alors, pourquoi prendre la responsabilité de les écrire?
Vous les recoupez au fur et à mesure des témoignages.
Donc vous avez recoupé absolument chaque témoignage à plusieurs reprises.
Bon, je sais pas. Moi, je suis en train de vous dire des choses là.
Oui, non, mais j'entends. Mais
donc ça passe
que...
à la radio. Vous l'avez recoupé, ce que je vous dis?
Mais je vous écoute, moi. Sauf que j'écris pas de livre. Je n'écris pas de livre, monsieur. Moi, je pose des questions. Je suis journaliste. Je dis
déjà,
simplement.
Vous parlez d'un travail de journaliste.
Vous n'êtes pas journaliste.
Je veux dire, en l'occurrence, est-ce que je fais un travail de journaliste quand j'écris un livre?
J'imagine. Vous parlez d'enquête. D'enquête. Je suis désolée, mais les termes, c'est important.
C'est pas une fiction,
oui. Vous parlez d'une enquête que vous avez commise sur Didier Deschamps. Une enquête sous-entend.
J'aime pas beaucoup le mot commettre.
Que vous avez écrit, si vous voulez, peu importe. Ouais. C'est le mot approprié. Il est pas péjoratif, ce mot, monsieur.
Oui.
On va pas changer de sujet. Je dis simplement que vous parlez d'enquête. Une enquête, c'est déterminé par un certain nombre de fonctionnements, de règles, parce qu'on est tous, je suis désolé, contraints à un certain nombre de règles, justement, pour ne pas dire des choses qui n'existent pas. Alors, soit on se contente d'écrire et de reproduire des commentaires d'individus proches, plus ou moins proches de Deschamps, et auquel cas on ne peut pas parler d'un livre d'enquête.
Oui.
Apparemment, ce qui est assez surprenant, si je peux me
permettre.
Ce qui est assez surprenant, c'est que. Oui, là, vous êtes.
Bernard,
moi,
vous êtes
exactement troublé de la même manière que peut l'être, justement, quelqu'un qui est le sujet de votre livre. C'est-à-dire que là, vous avez le sentiment d'être. Je sais pas, moi, je vous sens emprunté, gêné, en disant non, je n'ai pas dit ça, non, c'est pas la vérité, ce qui est sorti dans 20 minutes.
J'ai parlé de 20 minutes, j'ai jamais dit que j'avais pas écrit mon livre.
Vous êtes victime à ce moment-là avec cette interview de 20 minutes de propos qui ne sont pas les vôtres. Et j'entends complètement
le ça côté. Ça peut arriver aussi à des gens qui écrivent des livres.
Et ben alors c'est un mea culpa qu'il faut faire dans ce cas-là.
Pourquoi?
Bah si vous dites ça peut arriver à des gens qui écrivent des livres, à savoir de rapporter des propos qui ne sont pas identiques.
Ça mea culpa, je comprends pas.
Bah, vous venez d'expliquer. Excusez-moi, on a la même conversation, on est dans le même espace-temps.
C'est pas parce que
mais
j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression.
Mais non, vous venez de dire que vous êtes victime avec 20 minutes de propos qui ne sont pas les vôtres.
Dans une interview, mes propos ont été déformés que je dois faire un mea culpa. Excusez-moi.
Si vous êtes victime de ça, vous pouvez bien comprendre qu'en écrivant votre bouquin, vous avez pu aussi commettre cette injustice à l'égard de Didier Deschamps et que auquel cas vous pouvez revenir. Si vous deviez réécrire votre livre aujourd'hui, est-ce que vous ne prendriez pas...
C'est ce que vous allez faire, vous allez réécrire.
Mmh. Ah, c'est vrai?
Pourquoi? Parce que
il y a 5 ans qui sont passés et que... Et puis, vous voyez, je viens.
Je suis un bon sujet en ce moment.
oui, on aurait pu faire une, qu'on appelle ça, des éditions augmentées au fur et à mesure. Et puis, il y a votre regard qui change. Je viens de publier au mois d'avril un portrait de Romy Schneider. 20 ans après, un autre. Il y a peu d'éléments, hélas, dans la vie de Romy Schneider qui ont changé en 20 ans, puisqu'elle est toujours morte. Mais
c'est
en revanche, je me suis aperçu. Vous voyez, je ne dis pas que des
non
des
mais
bêtises.
C'est pas parce qu'on ne dit pas que des bêtises qu'on ne dit pas des conneries par ailleurs. Hein, si c'était aussi simple, j'adorerais moi.
Vous en êtes l'exemple.
Mais
le plus.
Voilà.
Et on finira ensemble tous les deux.
Ah bah oui, donc, je pense qu'il y a une tension qui se crée tous les deux. Mais.
Je pense, on se demande pourquoi.
En tout cas, c'est vrai que vous avez l'habitude d'écrire sur les morts, hein. Serge Gainsbourg, Romy Schneider, Coluche.
Oui, je voulais pas qu'il le sache.
Mais ce qui est compliqué, c'est que face aux vivants, après, il faut des éléments.
Il faut assumer.
Voilà.
Ouais, il faut assumer.
Il
faut assumer.
Ce qui me déçoit, rien vous dire, malheureusement. Même si vous, Bernard, c'est pas vrai
Bernard,
ou quoi que ce soit.
Mais vous savez, on essaye de faire attention. Sincèrement, faut revenir à des choses plus sérieuses. Moi, je travaille aussi dans le respect des gens.
Eh ben, c'est pas le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre. Je vous dis sincèrement, ce qui me déçoit le plus, c'est que vous assumez pas ce que vous avez écrit, en fait.
Oui, ben moi, je pourrais.
Je trouve ça très bizarre.
Si vous preniez un peu de temps, vous montrer des pages, des lignes très élogieuses.
J'ai pris le temps. Oui.
C'est un personnage. Alors on peut dire, oui, bon, c'est un personnage
c'est
public.
Dingue. C'est dingue de ne pas assumer ce que vous avez écrit. Je trouve ça dingue. Mais j'ai hâte de lire ce que vous avez écrit.
Je sais pas, ne serait-ce que la quatrième de couverture, d'ailleurs, que j'ai relue.
Non, mais on va pas faire du. Vous avez relu votre livre, c'est bien. Mais
ce que je trouve, j'ai relu la quatrième couverture.
Je trouve que vous n'assumez pas les propos. Moi, ce que j'ai retenu de ce livre, y compris et de sa couverture et de son titre, c'est que vous alliez chercher la merde là où et quand on remue la merde, on trouve toujours des trucs et là où la merde n'existe plus et vous en servez pour faire de la vente. Voilà. Et je trouve dommage de ne pas assumer. Moi, j'espérais que vous assumiez ce que vous aviez écrit. Là aujourd'hui,
je l'assume totalement.
Ben non, vous l'assumez pas. Ben parce que quand je vous dis oui, mais non, mais non, moi,
c'est parce que
moi,
je prends des témoignages des autres. Je n'assume pas. C'est extraordinaire quand même.
Mais c'est vous qui l'avez écrit, c'est pas moi.
Vous voudriez que je fasse une confession et un mea culpa.
Non,
sinon, c'est
que vous
n'assumez pas.
Est-ce que vous avez conscience de faire du mal en écrivant des bouquins comme ça?
Non, mais je voudrais même. Je cherche parce que bon, le livre est paru il y a 5 ans. Mais par exemple, Jeanne Overt, excusez-moi, même là, on parle. Bon, c'est un peu compliqué parce que les gens ne
savent pas. Oui, tout à fait. Oui.
Mais non, mais puisqu'il a dit, moi je ne vois pas dans les propos. Bien sûr, il y a des choses un peu. Mais enfin, je pense que
quand ça vous concerne pas, vous savez, quand c'est des propos qui concernent.
Il parle d'un lien très fort avec votre femme. Il dit qu'elle a une influence sur vous et il dit que c'est pas elle qui le recherche. Ce qui est plutôt.
Je pense qu'on rentre trop dans les détails qui ne vont pas passionner nos auditeurs. Merci en tout cas d'avoir eu.
Bon, je vais attendre le prochain livre. Alors.
Bah oui, écoute, il y en aura d'autres.
Puisqu'on ne peut pas s'opposer au livre.
Bah oui, c'est ça.
Exactement. C'est la liberté
d'expression.
Et Dieu sait s'il y en a qui en écrivent. Voilà.
Et il faut respecter cette liberté d'expression, absolument. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh oui, désolé déjà pour notre ami, enfin c'est ce qu'on dit, Guillermo Guise, qui, selon mes sources, a vécu une émission douloureuse. Et désolé Pépito, côté souffrance, c'est pas fini. Pareil que tu vas passer la soirée avec Lila et crois-moi.
Tu vas prendre.
Désolé pour Alain Bogossian, Bernard Diomède, Lionel Charbonnier et tous les champions du monde 98 qui n'ont pas été cités par Nagui. Alors, vous savez bien, France Inter, on est number one sur le foot. L'erreur est donc rectifiée. Désolé pour nos auditeurs racistes et donc fans de Guillermo Cuisse qui ont été choqués par la bien-pensance coco gaucho de Didier Deschamps. Ah là là, cette France molle, je suis d'accord. Allez, viens, Leïla, on va sur Radio Courtoisie.
Allez.
Merci mille fois, Didier Deschamps, d'avoir accepté notre invitation parmi les centaines d'invitations et de sollicitations.
Avec grand plaisir.
On est fiers de vous avoir comme parrain et fiers de vous avoir comme double champion du monde, sélectionneur et futur champion d'Europe. Vous avez intérêt, sinon on ne vous connaît plus, évidemment. On est comme ça, on est fragile en amitié. Prochain match de l'équipe de France, le 22 mars contre la Moldavie, le 25 mars au Stade de France. Et encore des applaudissements pour Didier Deschamps. Merci Didier, tout le monde. À suivre Philippe Bertrand, on est en retard. Pardon Philippe.
C'est pas grave. C'est pas grave. Didier, on cherche un entraîneur à Dijon.
À Dijon.
Ouais.
D'accord. Vous l'avez pas trouvé encore ?
Bah, il y a Guy Lacombe qui est annoncé, mais j'ai pas de confirmation.
Ah, il faudra.
Vous en avez, vous ? Non.
Ah non, non.
Ah
non,
zut.
Non, non. Bon. Je peux pas confirmer ni infirmer. Ouais. Je suis pas disponible.
Tant pis, dommage.
Légèrement pris.
Salut les amis.
Il est l'heure.
Ciao.